Mare Nostrum sur Radio Zinzinex.
Des mondes antiques aux migrants d'aujourd'hui.
L'actualité, la culture, les sciences sociales.
Dans l'ère méditerranéenne.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans notre émission Mare Nostrum. Et aujourd'hui, c'est le 111e numéro. Nous allons donc une fois de plus partir à la découverte de la Méditerranée, ses pays, ses civilisations, ses hommes, ses sociétés. Et tout ça grâce à nos invités qui sont, vous le savez, toujours des spécialistes assez pointus qui viennent nous parler de leurs recherches et que je questionne pour vous, pour étancher en quelque sorte votre curiosité. Alors le sujet que nous allons examiner porte sur une période particulièrement difficile, terrible de l'histoire de France et du pays d'Aix. C'est donc la Seconde Guerre mondiale, avec tout ce qui s'est passé, l'occupation, et également, bien sûr, la résistance à cette occupation. Et donc, aujourd'hui, on va se préoccuper d'une héroïne de la résistance que nous allons évoquer, qui est native de Marseille, très attachée à cette ville malgré le nom qu'elle a porté, mais on aura des explications avec notre invité. Il s'agit de Bertie Albrecht, qui a donné sa vie pour défendre ses idéaux. Alors, j'accueille un spécialiste de la résistance en Provence, qui est donc Robert Mancherini. Bonjour, Robert.
Bonjour.
Donc, vous êtes professeur d'université émérite en histoire contemporaine. Vous êtes rattaché au laboratoire Télème, dont vous faisiez partie quand vous étiez en activité encore. J'hésite à dire ça, d'ailleurs, parce que vous êtes toujours en activité. Donc, dans le laboratoire Télème, qui est donc un laboratoire de la MMSH, ex-Marseille Université, dont nous sommes partenaires. Les travaux de Robert Mancherini portent, bien sûr, sur l'histoire du monde, du mouvement ouvrier, la France sous le régime de Vichy, la résistance, et c'est pour ça, c'est à ce titre qu'aujourd'hui je l'ai invité, la libération, etc. L'histoire de Marseille aussi, l'histoire locale des Bouches-du-Rhône, voilà, de la région. Voilà donc un échantillon seulement de ses préoccupations. En fait, il en fait beaucoup plus que ça, je le sais. Parce que quand on parle avec lui, on parle pendant très longtemps, forcément. Alors donc, Bertie Albrecht, eh bien, on va donc l'évoquer. C'est une Marseillaise résistante et féministe. C'est le titre de cette émission. Et la première des choses que je veux demander donc à Robert Mancherini, c'est sur quel fonds d'archives il a travaillé. Vous savez que j'aime bien ça. Évoquer les archives, c'est aussi montrer la place de la recherche dans notre société. Alors, quels sont les archives, les fonds d'archives que vous avez utilisés? Est-ce qu'il y en a des nouveaux? Est-ce que vous avez trouvé des choses particulières? Je vous donne la parole.
Oui, alors, vous avez tout à fait raison. Hein. Les fonds d'archives, c'est absolument indispensable pour l'historien. On ne pourrait pas faire de l'histoire sans archives. Les témoignages, c'est important, mais d'abord, les témoins disparaissent.
Eh oui.
Et ensuite, chaque témoin a son point de vue, qui est respectable, qui est intéressant, mais enfin, c'est un point de vue. Les archives, c'est autre chose. Par exemple, les archives de police, par exemple, en particulier, qui donnent des renseignements très intéressants. Mais là, c'était autre chose comme type d'archives. C'était ce sont toujours des archives qui ont été déposées par la famille. Et en particulier, la correspondance de Bertie Albrecht pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec toute sa correspondance avec ses enfants, sa fille et son fils. Donc c'est très intéressant au niveau de la perception de la vie intime de Bertie Albrecht. Et aussi notre fond, très intéressant, qui est le fond de sa correspondance pendant la Première Guerre mondiale, là qui a été achetée par le musée d'histoire de Marseille. Alors ces correspondances, c'est un type d'archive particulier, mais qui permet vraiment de rentrer dans l'intimité des personnes. Ce qu'on n'a pas souvent. Parce que souvent, on a des archives administratives. Mais là, des archives privées comme ça, oui, c'est un trésor.
Oui, oui, des archives personnelles, c'est toujours très, très intéressant. Puis là, ça va montrer justement son évolution, ses convictions.
Absolument, absolument.
Donc, puis, ça l'intéresse aussi, oui.
Ça permet d'évoquer les rapports intrafamiliaux, d'abord, le rapport avec sa mère, son père et le reste de la famille. Et puis aussi ses relations avec son futur mari, puis après son mari, et puis après ses enfants. Donc on a là, pendant X années, une trame intéressante.
Mmh. Oui. Donc ces archives, on vient juste de le citer, mais on va l'évoquer un peu plus, avec un peu plus de détails, en particulier celles du début du siècle, elles vont parler justement de son enfance et de sa jeunesse, où finalement elle se forme. Déjà, on sent qu'elle va avoir ses convictions très ouvertes aux gens, rendre service, etc., ce qu'elle va faire toute sa vie. Alors, son enfance et sa jeunesse. D'abord, juste une petite précision. Son nom n'est pas vraiment marseillais. Et pourtant, elle est marseillaise, elle est née à Marseille.
Non, alors, son nom, Albrecht, c'est son nom de femme mariée.
Voilà.
Donc, déjà, c'est pas très français. Et puis, son nom de jeune fille non plus, c'est Wild. Voilà. Qu'on pourrait traduire en anglais par sauvage. Parce qu'elle est d'origine suisse. Sa famille est d'origine suisse et sont des Suisses qui sont installés à Marseille. Alors Marseille est une ville de migration, mais en général, quand on évoque l'immigration, on évoque toujours l'immigration du sud de l'Europe ou de la Méditerranée. Et là, on évoque l'immigration du nord de l'Europe, enfin, ou du centre-Europe. Et c'est inhabituel hein, quand on parle d'immigration. Alors, il est vrai que les Suisses ne représentent pas une masse très importante dans l'immigration, mais ils tiennent des secteurs très importants, ouais, au niveau économique et au niveau religieux aussi. En particulier, ce sont eux qui vont développer l'église protestante à Marseille. Donc vous voyez, c'est vraiment un groupe qui a du pouvoir, est très proche du pouvoir.
Ouais. Et c'est intéressant parce que justement, elle est symbolique de la ville de Marseille, qui est une ville d'immigration.
Absolument, absolument. C'est ça, oui, c'est une ville alors qui habite pas dans les migrations n'habite pas dans les mêmes quartiers.
Ouais.
Elle habitera plutôt dans les quartiers sud, hein, au sud du Vieux-Port, d'abord boulevard Notre-Dame et ensuite rue Sainte. Bon, et, tandis que les autres migrations habitent plutôt dans les quartiers nord.
Dans les quartiers nord.
Hein. C'est des migrations d'ouvriers. Là, c'est plutôt une migration de négociants, d'hommes d'affaires. Voilà.
Alors, comment vit-elle sa jeunesse, sa formation, etc. Parce que vous avez suivi sa piste là, quand elle était jeune.
Oui, alors j'ai suivi sa piste. Alors d'abord, il y a une nouveauté par rapport à l'époque à noter, c'est qu'on ouvre à ce moment-là les établissements pour jeunes filles, les lycées pour jeunes filles. Donc elle va un peu essuyer les plâtres du lycée Montgrand à Marseille, qui va être l'un des premiers établissements pour jeunes filles. Donc elle a déjà une éducation qui est une éducation, c'est-à-dire un service public, hein, bien que ce soit réservé encore à des couches privilégiées. Et ensuite, la deuxième chose à mettre en avant, c'est qu'elle est protestante. Et vraiment, le protestantisme pour elle, c'est vraiment quelque chose de très très important. Hein. Sa famille est une famille protestante, d'ailleurs assez rigoriste, hein, du point de vue de son grand-père ou de sa mère. Enfin, ils vivent tous ensemble, hein, loin d'un logement très proche. Et la grand-mère, par exemple, aura beaucoup d'importance pour elle. Et par exemple, une anecdote, elle lui fait réciter toutes ses prières. Lorsqu'on rentre chez elle, d'abord, il faut que Bertrand Albrecht récite toutes les prières assises près d'elle sur un tabouret. Donc vous voyez, c'est vraiment le protestantisme la forme. Mmh. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que j'ai trouvé dans sa correspondance. Elle est vraiment très anti-catholique.
Ah oui?
Ah oui, parce que rue Sainte, elle est près de Saint-Victor. Elle va voir un peu ce qui se passe à Saint-Victor. Elle est horrifiée. Elle dit tout ça, ce sont des simagrées, des comédies, etc. Mais tout de même, elle dit il faut que je continue à étudier ça, le catholicisme, pour mieux comprendre. Donc, vous voyez, c'est les deux aspects, à la fois le rejet de ce qui est superficiel, et en même temps, la prise en compte, en disant, c'est pas parce que je rejette qu'il ne faut pas que je l'étudie. Et ça sera toute sa vie, finalement.
Ouais, ouais. Et est-ce que ce protestantisme explique son altruisme? Parce que c'est ce dont elle va faire preuve pendant
toute sa vie. Ah oui, tout à fait. Alors, c'est se mettre au service des autres.
Voilà.
Depuis le début, dans sa jeunesse, hein, c'est comme ça, elle défend cette idée. Même quand elle est lycéenne, et après, quand elle va chercher un métier, elle va prendre le métier d'infirmière, ce qui est significatif. Alors bon, c'est pas seulement se mettre au service des autres. C'est un des seuls débouchés qui est offert aux filles de la bourgeoisie à ce moment-là, hein, comme métier. On va pas les envoyer travailler en usine. Donc, infirmière, on tolère encore. Mais pour elle, c'est vraiment se mettre au service des autres. Donc elle passe son diplôme d'infirmière et elle va exercer très très rapidement.
Oui, c'est une vocation.
Voilà, c'est une vocation. C'est une vocation. Oui. Et on va le retrouver tout au long de sa correspondance.
Oui, c'est une vocation qui tombe bien puisque c'est la seule porte de sortie.
Ah oui.
Donc, non, mais c'est quand même assez significatif du personnage.
Ah oui, significatif, et c'est un peu à contre-courant de ce qui se passe à Marseille, puisque Marseille, ville d'immigrés plutôt méditerranéens, est ville catholique.
Oui, oui, c'est vrai que ça fait beaucoup.
Immigrés suisses et protestantes. Donc c'est une minorité, ça aussi je crois qu'il faut l'avoir en tête. Quand on est minorité comme les protestants, il faut savoir se défendre.
Eh oui.
Ils ont vécu quand même l'abrogation de l'édit de Nantes, les galères, qui sont pas loin de la rue Sainte. Hein,
eh oui,
lorsque la
eh oui c'est vrai, c'est voilà. Juste au-dessus.
Voilà, juste au-dessus. Et donc, il y a aussi cette mentalité de, on se défend, on est minorité, mais on a des idées et on les défend.
On résiste.
On résiste,
c'est voilà. Ça.
Oui, depuis le début.
Depuis le début, c'est ça. Alors, dans son évolution, selon le livre donc, dont on donnera les références tout à l'heure, la Première Guerre mondiale est un choc dans sa vie. C'est le premier choc qu'elle a.
Ah oui, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment... elle est partie, elle a passé son diplôme d'infirmière, elle est partie à Londres pour quelque temps faire un petit stage. Et puis c'est à ce moment-là qu'intervient la Première Guerre mondiale. Et on a sa correspondance à ce moment-là, elle dit c'est un choc terrible. Elle déteste aussi, comme elle déteste les catholiques, elle déteste les Allemands. Et elle trouve que vraiment c'est ignoble ce qu'ils ont fait de déclencher la guerre à ce moment-là. Et donc elle va s'engager de manière très patriotique. Elle revient à Marseille et elle va exercer son métier d'infirmière dans les hôpitaux publics qui se développent à ce moment-là. Et par exemple, elle va exercer au lycée Thiers, qui est transformé en hôpital. Qui est,
ah oui.
qui est le grand hôpital à ce moment-là.
Et oui, il fallait des équipements à cette époque. Hein.
Et donc, dans sa correspondance avec son futur mari, elle raconte tout ça. Hein. Toute sa vie comme infirmière et comment elle se met au service des patients. Parce qu'elle ne se contente pas de les soigner physiquement, mais elle essaie aussi de soigner leur âme, si j'ose dire. C'est-à-dire, elle essaie de les distraire, elle leur apporte des ouvrages, des douceurs, etc. Elle reste avec eux après son service. Donc voilà, c'est vraiment, j'allais dire, de la charité. Mais bon, c'est protestant. Se mettre au service des plus faibles.
Oui, elle donne ce qu'elle va donner toute sa vie, en fait, là.
Absolument.
Donc, alors, il faut rappeler que ce sont les blessés de guerre, essentiellement, qui sont dans cet hôpital ou pas?
Ah oui, ce sont, excusez-moi, les blessés de guerre.
Ouais, ouais.
Tout à fait. Okay. Et donc, très gravement. En général, quand elle raconte, il y a des lettres où c'est un peu dur. Hein.
C'est un peu compliqué.
Elle raconte que les amputations, des blessures terribles, les cris de douleur des hospitalisés. Mais finalement, elle supporte ça très bien. Elle y retourne volontiers, mais c'est vrai que ça l'épuise aussi. Et quand elle écrit à son futur mari qu'elle a rencontré à Londres, elle dit « Maman, je suis très fatiguée ». Celui-ci l'encourage à dire « Mais prends pas un service aussi dur ». Et finalement, elle trouve un autre service, un peu moins dur, en radiologie.
Ah oui,
voilà.
Ah, déjà.
Déjà, oui. Ah, oui. Ouais. Ça commence. En plus, on voit l'évolution aussi des soins. C'est passionnant au niveau de la vie quotidienne.
Alors, on va faire une première pause musicale. Et là, donc, ça allait de soi. C'est la bande originale du film Les Femmes de l'Ombre, qui est donc, bien sûr, un film sur la résistance et la place des femmes dans la résistance.
Yeah.
Alors, ces femmes de l'ombre, justement, dont on vient d'entendre la bande originale du film, c'est déjà un combat féministe. Et donc, le combat féministe va faire éruption assez vite dans sa vie à Bertie Albrecht.
Oui, tout à fait. Alors, elle va rapidement prendre des positions très féministes, mais assez bizarrement, elle commence par se marier. Mais c'est-à-dire, ces convictions féministes vont s'approfondir au fur et à mesure, justement, de sa vie. Alors déjà, elle a un caractère très, très autonome, hein, très affirmé, y compris par rapport à son mari. Elle lui dit dans sa correspondance, attention, tu ne feras pas de moi ce que tu veux.
Hein. Non, déjà, carrément.
La correspondance, alors, qui ne sont que fiancés. Mais elle se marie parce que d'abord elle l'aime. Elle l'a rencontré à Londres. Hein. Il est beaucoup plus âgé qu'elle. Elle l'a rencontré à Londres et elle veut créer une famille, une vie familiale. Donc elle va le rejoindre, en passant sur divers épisodes, elle va le rejoindre en Hollande, hein, où ils vont se marier en Hollande. Et ensuite, comme lui est un trader, c'est-à-dire il travaille à la Bourse de Londres, ils vont ensuite s'installer à Londres. Et là, elle va vivre pendant tout un temps une vie de riche bourgeoise londonienne. Elle raconte, on voit dans certaines de ses lettres, dans ses confidences à ses amis, qu'elle apprécie. Hein, elle apprécie le luxe, d'abord. C'est pas quelqu'un qui rejette absolument les plaisirs de la vie, bien au contraire. Elle apprécie cette vie, bon, les soupers en ville, les spectacles et tout, mais ça ne suffit pas. Et très rapidement, elle a une sorte de dépression, à mener cette vie qu'elle considère comme un peu futile. Et donc elle va évoluer, elle va prendre conscience de tout ce qui se passe à Londres à ce moment-là, qui est un peu en ébullition, hein, aussi bien au point de vue du mouvement ouvrier, développement du socialisme, des grands courants socialistes qui s'affirment, et aussi des courants féministes. Je crois que c'est à ce moment-là Londres qui est un peu le cœur du féminisme en Europe, oui. en liaison à l'Allemagne, hein, où il y a des associations internationales qui se créent, alors qui s'appellent Ligue pour la réforme sexuelle, etc. Mais bon, en fait, ça veut dire c'est pour la libération de la femme. Quand on lit bien pour développer la contraception, de l'avortement, contre le rejet des homosexuels, etc. Donc, voilà, et elle va participer, elle va rencontrer tous ces gens-là, et ça va la faire évoluer. À tel point que ça va se tendre avec son mari. Parce que dans les soupers en ville, souvent, elle met en avant ses idées socialistes. Vous comprenez que dans le milieu d'affaires de la city, c'est pas exactement ce qu'il faut. Donc il y a des tensions qui vont s'accroître avec son mari, bien qu'elle l'aime et qu'elle le considère toujours. Et bon, finalement, ils vont arriver à se séparer. Elle va décider qu'il faut qu'elle vive sa vie de femme.
Et là, elle s'implique dans le débat.
Elle s'implique, mais...
Complice dans ses actes, elle devient militante.
Alors, elle devient militante, mais de manière très particulière, c'est-à-dire en participant à des colloques. Régulièrement, toutes les années, ces associations font des colloques, soit par exemple à Berlin, en Autriche, etc., avant le nazisme. Hein. Et elle participe à ces colloques, et elle fait des rapports. Et donc, on a ces rapports. Et on a les comptes rendus de presse sur ces communications. Et c'est très très intéressant ce qu'elle raconte à ce moment-là. Et en particulier, elle dénonce ce qui se passe en France, hein, où il y a une répression terrible de l'avortement, de l'interdiction de la contraception, sur la place de la femme. Donc elle intervient là vraiment très vigoureusement. C'est de manière théorique. Ça aussi c'est intéressant. C'est-à-dire qu'elle a un grand besoin de réfléchir.
Oui, oui. C'est pas quelque chose de superficiel qu'elle fait, c'est vraiment un travail en profondeur sur le féminisme, sur la situation des femmes en France, et dans le monde d'ailleurs. Elle est vraiment impliquée dans cette recherche.
Elle lit beaucoup, d'ailleurs, ça se voit après, quand elle a créé sa revue en France, qui s'appelait « Le problème sexuel », on voit ses comptes rendus de lecture, c'est vraiment très très fouillé. Ah oui. Ses articles sont émaillés aussi de références à tel ouvrage. Donc elle milite, mais disons, d'ailleurs, un apport théorique. Je crois que c'est ce qui est important. Mmh. Ce qui fait qu'elle va aussi un peu déranger peut-être ces associations, parce que souvent, cette interaction ne colle pas tout à fait. Mais dans l'ensemble, quand même, c'est un grand mouvement à ce moment-là qui se développe et qui a été oublié. Hein. Oui. Avec un féminisme très, 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 très vigoureux qui va disparaître en Allemagne avec le nazisme, par exemple.
Ah ben oui, ça, ça fera pas partie de ce qu'on peut trouver sous l'Allemagne, sur l'Allemagne nazie, bien évidemment. Hein. Et elle va finalement donc créer cette revue-là. On peut en dire deux mots de cette revue qu'elle a créée ?
Oui, bien sûr, c'est quelque chose de très important.
Et oui, c'est quelque chose de très important.
Elle quitte son mari, ils se séparent, mais tout en se retrouvant les week-ends, hein, tous les 15 jours. Ils ont de l'argent, son mari finance son installation en France. Donc ils ont un très bon rapport. Hein. Il vient voir ses enfants, parce qu'ils ont eu deux enfants. Hein. Et il vient les voir régulièrement. Et le fait de s'installer en France, ça veut dire qu'elle va pouvoir vivre vraiment en tant que féministe. Et vivre en tant que féministe, ça va être pour elle de sortir une revue, d'éditer une revue qu'elle va appeler Le problème sexuel. Pour nous, c'est un peu bizarre ce titre-là. Hein.
Oui, c'est ça. Oui.
Mais parce que on ne peut pas, à ce moment-là, en France, prendre position directement pour l'avortement, pour la contraception, pour la libération de la femme.
Mais c'est un délit.
Donc, oui, c'est un délit et les gens sont lourdement condamnés. D'ailleurs, elle le rappelle dans sa revue. Alors, dans la revue, vous aurez des articles très théoriques hein, sur la place de la femme, mais dans l'histoire, y compris. Ouais. Hein. Donc, vraiment une réflexion de fond. Et puis, des questions d'actualité aussi. Par exemple, elle prendra parti pour le projet de loi que dépose le Parti communiste en faveur de l'avortement. Le premier numéro de la revue, du problème sexuel, va être consacré à ça. Donc elle fait le point là-dessus, sur ce projet de loi qui vise à autoriser l'avortement.
Oui, parce que c'est vrai qu'avec avec le recul, on se dit c'est curieux comme titre, mais en fait ça veut dire le problème sexuel, ça veut dire le problème des sexes.
Ah oui, oui, voilà.
C'est ça,
voilà,
que ça veut dire. Bien sûr. Alors aujourd'hui, on va aller faire des plis tordus, peut-être.
Le problème des genres.
Oui, oui, c'est ça. Exactement. Donc, c'était bien ça qu'il a travaillé et qu'elle voulait évoquer dans cette revue. Et donc, elle a quitté Londres, là, ou pas encore?
Oui,
elle est venue s'installer à Paris.
C'est parce qu'elle vient s'installer à Paris, ouais, elle va sortir cette revue, puisque là, elle est totalement libre de faire ce qu'elle veut. Elle n'a pas de soucis matériels.
Ah ben oui, ça.
Elle a des domestiques, donc elle peut pleinement travailler à sa revue. Mais qui n'aura pas un succès énorme.
Ah ouais.
Ce sera diffusé parmi les gens les plus motivés, quoi. Ce qu'on appelle à ce moment-là le courant eugéniste.
Ouais.
Et il faut se méfier. Le mot d'eugénisme, ça ne signifie pas à ce moment-là la même chose que ça va signifier ensuite. Hein. C'est-à-dire, il se cache un peu derrière ce mot, en disant c'est pour la santé de la population, etc. L'eugénisme, il le conçoit comme ça, non pas par la mise à l'écart hein, des gens qui seraient handicapés.
D'accord, hein, ouais.
L'eugénisme, c'est pour la santé de la race, comme on disait.
Oui, oui, voilà. C'est ça, oui. Oui, c'est pour ça, quand j'ai vu ça, j'étais un peu étonné. Donc, effectivement,
oui,
il y a une évolution du sens de ce mot. Là.
Tout à fait, tout à fait.
Ouais, ouais.
Et d'ailleurs, parmi les premiers eugénistes, il y a le couple Humbert, qui est anarchiste, hein. Donc, ils sont loin d'être réactionnaires, ce point de vue, en voulant éliminer les gens qui avaient des problèmes.
Ouais, ouais. Voilà. Oui, parce que ça a pris un sens terrible.
Ah oui, ben ensuite, ben, vous avez le fameux ouvrage là, de... Enfin, ça prend le sens de mise à l'écart des handicapés, des gens les plus faibles, et même leur élimination. Hein.
Il y a Alexis Carrel qui en a parlé.
Voilà, c'est Alexis Carrel.
Alexis Carrel qui en a beaucoup parlé,
ouais,
qui a été un peu le...
Ah oui,
le théoricien de ce,
ah oui,
de cet eugénisme.
Donc c'est le sens que pendant l'eugénisme après.
Oui, c'est ça.
Et d'ailleurs, une anecdote assez extraordinaire, c'est-à-dire la rue à Lyon, il existait une rue Alexis Carrel qui a été débaptisée pour porter le nom de Bertie Albrecht.
Ah, c'est pas mal ça.
Récemment.
Ah oui.
Ah oui. Enfin,
ah oui, c'est intéressant.
Il y a quelques années. Oui, oui, c'est intéressant. Souvent on voit la balance. Alors Carrel dit, parle du courant eugéniste, c'est pas du tout hein, la mise à l'écart des plus faibles. Mais c'est au contraire développer la santé. Par exemple, elle explique qu'une femme qui a 20 grossesses, bon, c'est pas possible. Hein. Et l'avortement tel qu'il est pratiqué clandestinement, c'est pas possible non plus. Donc, on présente, si vous voulez, la défense de l'avortement, de la contraception, comme une mesure de santé.
Ouais.
Voilà, c'est une manière de faire passer les choses.
Oui, c'est un point de vue qui est intéressant, d'ailleurs. Ouais. Hein. Qui maintenant est repris. C'est vrai que c'est un peu elle qui a innové dans ce domaine-là.
Ah oui, c'est les associations féministes défendent ça, toutes les associations. Mais elle, vraiment, le développe. Elle explique très bien dans la revue, justement, les articles consacrés à ça. On cite des cas d'avortement, de grossesse multiple, etc.
Et ça a duré longtemps, cette revue ?
3 ans.
3 ans.
Oui, donc ça capote vite.
Hein. Eh oui. Bah, c'est-à-dire que... Oui,
C'est les happy few qui disent ça. C'est-à-dire ceux qui sont intéressés par... Mais ça marche surtout par abonnement. Bon, et les abonnements se réduisent. Et en plus, après, elle est soutenue au départ par le courant communiste. Et puis le courant communiste va connaître une évolution aussi.
Et ouais.
En suivant ce qui se passe à l'URSS. La réaction stalinienne revient sur tout ce qui avait été décidé en octobre 17. C'est-à-dire... Toutes les libertés des femmes, interdiction de l'avortement en URSS. Ah ouais. Par un sophisme extraordinaire. C'est-à-dire, puisque maintenant, on a le socialisme, c'est plus la peine d'avorter. Puisqu'on a des conditions de vie extraordinaires.
Ouais.
Voilà. C'est réduire l'avortement aux seules difficultés matérielles.
Ouais.
Voilà, c'est ça. Alors qu'il y a bien autre chose derrière.
Ben oui, c'est ça, hein. Ça, c'était le deuxième combat, le combat féministe. On va faire encore une autre petite pause musicale. Alors, je reste dans le même chemin que tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai trouvé ces musiques et les thèmes des films sur la résistance. Alors, tout à l'heure, je vous ai proposé Les Femmes de l'Ombre. Là, je vais vous proposer la bande originale de Paris brûle-t-il, qui est là aussi un grand film sur la résistance. Alors maintenant, on va parler donc du combat antifasciste qui va bien sûr déboucher sur la résistance. Alors ce combat antifasciste, il débute avec une rencontre extraordinaire au moment où elle est plus ou moins séparée de son mari. C'est à la rencontre avec Henri Freinet. Ou c'est plus tôt.
Oui, alors... Je mettrai un peu les choses...
Dans le bon sens.
Dans le sens inverse.
Mais c'est pour ça que je vous interroge.
C'est-à-dire, elle mène à Paris un combat féministe qu'elle continue à mener, mais en même temps, Hitler est arrivé au pouvoir en Allemagne, le fascisme se développe en Italie, il y a la guerre d'Espagne, donc elle va participer au combat antifasciste et antinazi. Parce que pour elle, c'est vraiment, ça a aussi une donnée de fond, l'antinazisme. Mmh. Elle ne supporte absolument pas ce qui se passe en Allemagne. Et donc, elle va participer à toutes les actions de solidarité contre le nazisme et contre le fascisme, un peu au moment, contre la guerre d'Éthiopie, menée par l'Italie. Elle participe au comité de soutien à l'Éthiopie. Et elle va recevoir chez elle toute une série de réfugiés anti-nazis, antifascistes, et alors beaucoup d'anti-nazis allemands ou d'Europe centrale. Hein. Et puis ensuite, les républicains espagnols. Donc, chez elle, son appartement va se transformer en espèce de foyer où on peut trouver de quoi manger, de quoi se laver, etc.
Donc, oui, les premières victimes des régimes fascistes.
Les premières victimes des régimes fascistes. Et donc ça, c'est ce qu'elle défend tout le temps. D'ailleurs, une anecdote, son fils va faire un séjour en Allemagne, il est un peu séduit par le spectacle des jeunesses nazies. Alors là, il reçoit une belle avoinée, hein, parce que elle met les choses au point. Non, c'est pas possible que tout soit comme ça. Quoi.
Ah oui.
Voilà, oui, oui. Donc c'est un antinazisme vraiment viscéral. Et elle va participer donc à toutes sortes de comités, de délégations dans les ambassades pour soutenir les victimes de la répression. Et elle va travailler aussi à ce moment-là avec le Parti communiste de manière assez étroite, mais sans adhérer au Parti communiste. Elle est un peu comme Gide. Gide, quand on disait « Pourquoi tu n'as pas adhéré au Parti communiste ?» Il disait « Parce que je suis pour l'Union libre. »
Ah ben voilà, ouais. Bonne réponse. Et finalement, son combat antifasciste, il est lié naturellement à son combat féministe.
Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Pour elle, ça va de pair. D'ailleurs, elle fait des analyses sur la femme sous le fascisme et sous le nazisme. Bien sûr, elle montre comment la femme est asservie à un système nazi, bien sûr. Alors, il y a une continuité là, très très importante. Alors, ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'à ce moment-là, comme elle s'engage, à la fois comme féministe, comme antifasciste, bon, elle fréquente les milieux populaires, c'est le Front Populaire aussi à ce moment-là. Et donc, elle considère sa situation de bourgeoise, financée par son mari, comme vraiment gênante. Elle dit, il faut que je travaille. Et donc, elle veut travailler. Alors, elle demande conseil autour d'elle. On lui conseille d'aller voir l'école des surintendantes. Alors, les surintendantes, c'est un peu les assistantes sociales, hein, assistantes sociales, DRH, dans les entreprises, qui sont mises en place à ce moment-là, dans les années 30. Elle est un peu trop vieille, elle, pour être admise dans l'école, mais on lui fait une dispense, et elle va suivre une scolarité à l'école des surintendantes.
Ça, hein, alors. Mais c'est le Front Populaire qui crée ça ?
Oui, oui, autour du Front Populaire, un peu avant, mais après, ça a développé au moment du Front
D'accord.
Populaire. Alors, c'est pas massif, hein,
ouais.
Mais c'est la première fois où on se préoccupe des femmes dans l'entreprise. Elles sont là surtout pour s'occuper des femmes dans l'entreprise, mais ça va aller plus loin, bien évidemment. Et elle va prendre toujours servir, elle va prendre ça à cœur, et d'ailleurs... ses élèves de l'école surintendance vont faire des stages à l'entreprise. Elle fait un stage aux Galeries Lafayette. Et elle fait un rapport de stage qu'on a, où elle dénonce vraiment les conditions de travail des femmes, qui sont vraiment... c'est du travail à la chaîne, hein, qui sont vraiment asservies, qui ne veulent pas bouger, qui ne veulent pas vraiment se détendre un petit moment. Donc, son rapport de ça, j'ai très bien noté par l'école. Voilà. Mais ça montre son état d'esprit à ce moment-là. Et d'ailleurs, quand elle va commencer à exercer, avant la guerre, hein, en tant que surintendante, elle va essayer de faire passer une série d'améliorations des conditions de travail des ouvriers, hein, dans les deux ou trois usines où elle exerce.
Et là aussi, on a des témoignages, des rapports, des écrits là-dessus,
oui,
sur son
alors,
travail.
On a
parce que c'est remarquable quand même. Bon,
son rapport de stage, qui est assez extraordinaire.
Hein. Pour connaître la situation
oui,
à cette époque-là,
il faut
c'est quand même
des stages d'entreprise. Alors, si vous voulez, finalement, c'est un phénomène qui n'est pas si isolé que ça. Hein. C'est l'époque où Simone Veil va travailler en entreprise. Hein. Simone Veil, la philosophe, hein. Mais elle travaille à la chaîne. Mais pour Bertrand Brecht, ça ne peut pas être le cas. On ne peut pas se mettre à la chaîne. Donc, surintendante, c'est un pas vers la condition ouvrière, mais c'est un pas intermédiaire. Quoi. Okay. Mais c'est quand même remarquable. Son parcours, quand on prend son parcours depuis Londres, riche bourgeoise, souper d'affaires, théâtre, etc. Et là, surintendante d'usine, où elle discute quel doit être l'équipement de sécurité des ouvriers, c'est vraiment... toute une progression.
Oui, elle reste dans ce cadre altruiste.
Ah oui, elle reste sur ce cadre altruiste et aussi se mettre au service
des...
mais même en se mettant en cause soi-même.
C'est vraiment un personnage exceptionnel.
Ah oui, exceptionnel. C'est pour ça que elle mérite d'être connue.
Et c'est la raison pour laquelle on fait cette émission, justement. Et elle aide également les femmes au chômage.
Oui, alors ça traîne un peu plus tard.
Un peu plus tard, d'accord.
Oui. Quand la guerre,
quand
la guerre se déclenche, elle est surintendante d'usine et son usine déménage à Vierzon. Et donc elle va suivre son usine à Vierzon, où là elle va continuer son travail. Mais là, pour moi, elle est toujours surintendante d'usine.
D'accord.
C'est après la guerre, comme elle va perdre son travail, quand la guerre sera déclenchée, il faudra qu'elle cherche autre chose.
Alors, oui, parce que... Et donc, sa rencontre avec Henri Freinet, elle va être quand même importante, cette rencontre, non ?
Bien sûr. Alors, sa rencontre avec Henri Freinet, c'est un peu le fruit du hasard, je dirais, et de la nécessité, mais surtout du hasard.
C'est pas qu'elle est seule.
Puisqu'ils ont... le couple Albrecht a fait construire une villa sur la Côte d'Azur, hein, dans un site qui s'appelle Beauvallon, qui est magnifique, hein, à Sainte-Maxime. Et Bertie et son mari et les enfants, ils vont très souvent. Or, à ce moment-là, Henri Freinet a sa mère qui est à Sainte-Maxime. Et donc, il va fréquenter, de fait presque naturellement, puisqu'ils font des soirées, etc., fréquenter presque naturellement le couple Albrecht, et surtout Bertie Albrecht. Ouais. Et là, ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Voilà, bien que Bertie soit toujours en bon terme avec son mari.
Ben oui, et cette rencontre, elle est importante parce que ça va faire partie justement de son action de résistante.
Ah oui, bien sûr, voilà. Anticiper, voilà. Ça va être décisif
pour la suite. Alors donc, troisième, après le combat féministe, après le combat antifasciste, il va y avoir bien sûr le combat de la résistance. Et ce combat de la résistance, il va mal se finir, bien sûr, pour elle, on le dira après. Mais on va voir un petit peu cet engagement et quelle est son action dans ce combat de la résistance. Et je crois que le premier combat, c'est avec, justement, Henri Freinet, l'association des deux.
Tout à fait. Alors, il faut revenir là au début de la guerre, hein. Le début en banlieue parisienne, alors que Henri, lui, est au front, hein, puisqu'il est militaire d'active. Donc, il est mobilisé pour les tâches militaires, et c'est la séparation des deux, donc elle est très malheureuse, là. Et ses enfants sont repliés dans les Alpes. Elle les a mis à l'écart, et elles sont toutes seules à Paris. Ensuite, elle va suivre son usine à Vierzon. Et là, elle va faire venir sa fille, mais toujours sans nouvelles d'Henri, qui au fond, d'ailleurs, Henri Freinet va être fait prisonnier, il va s'évader, et il va retourner à Sainte-Maxime, chez sa mère. Et à ce moment-là, il pourra donner de ses nouvelles à Bertie. Alors, non seulement Henri Freinet va reprendre ses activités de militaire à Sainte-Maxime et à Marseille, il va être au bureau de garnison de Marseille, et ensuite, il va être muté à Vichy. Et donc, il écrit à Bertie, et il se donne rendez-vous tous les deux à Vichy. Ce qui paraît bizarre aujourd'hui. Hein. Se donner rendez-vous à Vichy pour commencer la résistance. Mais de fait, ils se rencontrent à Vichy, et Henri Freinet a déjà, pendant l'été, réfléchi. Il a déjà réfléchi en disant, il faut commencer à préparer la revanche. On ne peut pas se contenter de l'armistice. Enfin, il est très naïf par rapport au maréchal Pétain. Il dit, vraiment, le maréchal Pétain joue double jeu, mais nous n'avons rien signé, nous pouvons déjà préparer la libération, hein, en gros. Et donc, il veut créer, il sort un texte qui va être modifié plusieurs fois et qui va appeler son manifeste, où il développe son idée de création d'une organisation secrète, qui va donner naissance à une armée secrète avec des groupes divers, des groupes qui font de l'agitation, des groupes qui font du recrutement, un groupe qui fait du choc, hein, donc qui va passer à des actions un peu violentes. Voilà. Donc il a déjà, lui, pendant l'été, réfléchi à tout ça. Et quand il rencontre Bertie, il dit, voilà ce que je suis en train de faire. Et Bertie est toute heureuse, parce qu'elle dit... J'avais peur que tu ne veuilles plus rien faire. Et là, justement, ça conforte ses idées. Mais, elle dit, j'ai des enfants. Et donc, elle remonte à Vierzon pour demander à sa fille si elle est d'accord. Sur ce souci des enfants. Parce que si, elle est féministe, mais elle est aussi une femme. Mmh. Et donc, elle a vraiment le grand souci, toute sa vie, de ses enfants. Et d'ailleurs, elle est un peu désespérée parfois en disant, la vie que je leur fais vivre. En étant résistante, c'est pas la vie qu'ils ont
voulu avoir. C'était pas simple. Ouais. Et donc, elle va avec Freinet, donc créer le mouvement de résistance. voilà. Une partie des mouvements de résistance.
Ils se disent,
bon combat.
Sa fille lui donne son accord. Ouais. Sa fille vient se réfugier à Marseille. C'est une vieille tante qui est à Marseille. Elle va à Vichy rencontrer Henri Freinet. Et tous les deux décident, en disant, qu'est-ce qu'on peut faire? La première chose, dit Bertie, il faut qu'on sorte un bulletin. Un petit bulletin pour faire connaître nos idées. Et pour dénoncer toutes les fausses nouvelles qui existent. Les folk news, on dirait aujourd'hui.
Ouais, ouais.
Et il décide de sortir un bulletin dactylographié que Bertie dactylographie, puisque elle a aussi l'expérience de sortie d'une revue.
Et donc, oui, c'est ça, elle a déjà l'expérience.
Elle a plus d'expérience, à la fois elle a plus d'idées politiques que Freinet, et elle a plus d'expérience pratique aussi. Donc je crois que ça a beaucoup aidé Freinet au départ de la voix. Et c'est pas parce qu'elle dactylographie les textes qu'elle est sa secrétaire, surtout pas. C'est elle participe aussi à l'élaboration des textes.
Elle n'aurait jamais accepté d'être secrétaire.
Absolument. Et donc il décide de sortir ses bulletins, qu'il diffuse comme ça de la main à la main, et qu'ils envoient aussi dissimulés dans des revues, par la poste. Et donc, au fur et à mesure, ça prend de l'ampleur. Ils se rendent compte que ça a du succès, que les gens sont intéressés. Et au départ, il s'agit de bulletins d'information, mais il faut aller plus loin. Il faut sortir un deuxième bulletin, un bulletin de réflexion. Donc ils embauchent quelqu'un pour travailler à ça. Donc ça commence à devenir vraiment une entreprise. Et tous les deux créent à ce moment-là le mouvement qui va devenir Combat. Et qui à ce moment-là ne s'appelle pas Combat, mais s'appelle le Mouvement de Libération Nationale. On ne va pas confondre, parce qu'il va y en avoir un autre plus tard, mais le MLN. Ou Libération Nationale à ce moment-là, c'est simplement Bertie et,
ils sont que deux.
Et Henri Freinet. Plus, il a recruté quelques copains à Marseille. Mais au départ, ils sont que tous les deux. Et elle va être d'un apport essentiel, parce qu'elle va le mettre en contact avec l'école des surintendantes de Paris. Et donc là, beaucoup de surintendantes, y compris la directrice de l'école, vont passer dans la résistance. Et d'ailleurs, vont le payer cher, vont être déportés, etc. Mais donc aussi, bon, Bertie participe à la fois sur le plan des idées, participe sur le plan technique, mais aussi participe sur le plan du développement du mouvement et lui donne des points de chute essentiels. Et un point de chute essentiel à Paris, c'est l'école des surintendantes, où elle est passée. Il paraît qu'elle avait un pouvoir exceptionnel pour convaincre les gens. Magnétisme, vraiment, avec des yeux très bleus. On disait, quand elle vous regardait ses yeux bleus, vous ne pouvez plus rien faire.
Oui, et elle fait plein de choses donc, dans ce mouvement. C'est elle qui fait tourner la boutique, en gros.
Au départ, oui, tous les deux. Bon, et ensuite, Henri Freinet va démissionner de son poste militaire à Vichy, où il est au bureau des renseignements, et il va partir à Lyon. Et elle va aussi chercher un poste à Lyon, et ce poste à Lyon, ça va être au commissariat de lutte contre le chômage. Voilà. Et là, elle va avoir un poste d'inspectrice lutte contre le chômage, c'est-à-dire qu'elle va organiser, c'est un service de Vichy, elle va organiser ce service-là pour toute la région lyonnaise. Et ça va jouer aussi un rôle très important.
Eh oui. Alors que cette son aventure, si je peux dire, de résistante, va quand même trouver un gros souci, un gros problème, puisque finalement, elle va tomber dans un piège.
Oui, alors, d'abord, elle va développer toute une série d'activités, elle va travailler.
Oui.
Bon, il y a divers épisodes que je ne peux pas développer là, mais vraiment, Combat, le MLN qui est devenu Combat, va être dans le collimateur des services de Vichy, qui vraiment essaie de le neutraliser. Et il va y avoir un procès du groupe de Combat. Vichy, elle sera arrêtée. Elle sera arrêtée et internée à Vals-les-Bains, pendant quelque temps. Et puis finalement, elle va être condamnée à de la prison. Elle se débrouille pour passer pour folle, et donc se faire interner dans un asile à Lyon. Et puis là, elle va s'en évader. C'est plus facile de s'évader de l'asile que de la prison. Voilà. Et elle va continuer, mais à ce moment-là, elle est vraiment connue. Donc elle ne peut agir plus que clandestinement. Elle va développer dans l'ensemble de la France les services sociaux de Combat. C'est-à-dire pour aider les résistants qui sont emprisonnés, elle va monter tout un service qui leur porte de la nourriture, qui garde le lien, etc. Mmh. Et finalement, tous les deux, alors je passe sur des tas d'épisodes, très important. Mais tous les deux se retrouvent de nouveau près de Lyon, mais près de Mâcon, à Cluny. Alors pourquoi Cluny, qui est connu par son abbaye? Parce qu'il y a un couple là qui accueille des résistants. Hein, c'est le couple Gouze, c'est les beaux-parents de François Mitterrand.
Ah oui. Hein,
le couple Gouze qui accueille Henri Freinet, qui lui se garde toutes les consignes de sécurité. Donc il faut qu'il soit à l'écart. Donc il se réfugie à Cluny, et c'est de Cluny qui dirige toute l'organisation. Et Bertie Albrecht va le rejoindre à Cluny. Donc tous les deux seront hébergés dans la villa des Gouzes.
Où ils rencontrent, ils font connaissance de Daniel,
voilà,
qui deviendra Daniel Mitterrand.
François Mitterrand fait la rencontre de Daniel Gouze, qui d'ailleurs va participer aussi au réseau de résistance.
Ouais.
Voilà. Et puis, alors là, ils sont vraiment pourchassés. Hein. Combat est pourchassé. Et Freinet a été repéré. On a un rapport, qui s'appelle le rapport Flora, où on décrit. Je l'ai reproduit. Je prends des articles dans le livre. Où la Gestapo sait parfaitement où est. Pas la villa précisément des Gouzes, mais en gros l'hôtel où ils doivent se rencontrer à Mâcon. Et donc ils montent une opération, là. Et le jour de cette opération, doit se tenir une réunion. Freinet n'est pas là, mais Bertie est là. Bertie Albrecht, donc elle va être prise. Et il y a un stratagème qui est monté pour qu'elle puisse être vraiment identifiée. Là, il y a une femme qui joue un double jeu, enfin bref, c'est compliqué.
Une trahison.
Ouais, une trahison qui joue un double jeu et qu'elle va être arrêtée à Mâcon, dans un grand jardin, où maintenant il y a une stèle. Hein. Et elle va être prise là, emmenée au siège à Gestapo de Mâcon, et ensuite expédiée à Fresnes. Et là, à Fresnes, elle va être d'abord torturée, hein. Et ensuite, à Fresnes, elle va arriver dans la nuit d'après le sepan, en disant « je ne supporte plus ». Elle est déjà mal supportée. Son premier emprisonnement, elle a dit « je ne peux plus ». Elle avait dit d'ailleurs à Henri, avant de partir, « si je suis prise, je me suiciderai ».
Voilà comment se termine son histoire. On va faire une petite pause musicale, toujours dans le même domaine, avec les musiques des films. Il s'agit de la musique, la bande originale de « L'armée des ombres ». Alors après cette fin terrible pour Bertie Albrecht, qui montre combien c'était une femme pleine d'héroïsme et pleine de conviction, j'aimerais quand même qu'on dise quelques mots d'autres femmes dans la résistance, dans le sud de la France à peu près, quoi, hein, parce qu'il y en a d'autres. Bertie, certes, était à la tête d'un mouvement, hein, mais il y en a d'autres qui ont joué aussi un rôle important. Alors, est-ce qu'on peut en citer quelques-unes, dire quelques mots de chacune?
Oui, alors d'abord, je voudrais dire un petit mot sur la représentation qu'on se fait de la place des femmes dans la résistance. Le type officiel du résistant, pendant tout un temps, ça a été le FFI, à bord sa traction avant, la croix de Lorraine,
oui,
et sa mitraillette. C'était ça la résistance. C'est le stéréotype complet de la résistance. Alors, par rapport à ça, on a dit, mais les femmes aussi ont participé, mais elles faisaient des tâches un peu moins gratifiantes.
Subalternes.
Voilà. Elles étaient à bicyclette, elles transportaient des messages, elles dactylographiaient, voilà. Mais, et là, quand j'ai repris la vie de Bertie Albrecht, j'ai dit, ça correspond à rien, quoi. Qu'on soit aucun stéréotype, c'est-à-dire elle ne passe pas des messages à bord de sa bicyclette, tout. Elle participe à la création et au développement d'un mouvement. Bon, c'est bien autre chose. Hein.
Ben oui.
C'est bien autre chose. Mais c'est aussi une autre conception de la place de la résistance et de la manière dont fonctionne la résistance. Au départ, on voit la résistance uniquement comme la période de la libération, l'affrontement armé, etc. Alors qu'il y a tout ce qui se passe avant. Et là, je crois que le personnage de Bertie, en tant que femme, est essentiel pour nous faire comprendre ça. Alors, il y a bien d'autres femmes hein, qui sont plus ou moins connues, mais là, qui sont très connues. Hein, Lucie Aubrac, que moi, j'ai bien connue, je participe avec elle à beaucoup de conférences, à beaucoup d'interventions dans les établissements. Bon. Lucie Aubrac, elle aussi, elle ne passe pas des messages clandestins. Elle mène Libération, en partie, hein, avec Raymond. Bon, donc... vous avez aussi une autre qui est très connue, puisqu'elle a un lycée hein, dans notre région. C'est Marie-Madeleine Fourcade. Elle aussi, oui. Elle ne passe pas des messages à bicyclette. Hein. Elle dirige le mouvement, qu'on appellera après l'Arche de Noé. Mais elle le dirige vraiment, elle l'implante, tout. Elle réussit à s'échapper deux fois, quand même, ce qui est pas mal. Voilà, c'est une autre image, une autre conception, je crois, de la résistance en étudiant l'histoire des femmes. Je crois que c'est ce qu'il faut avoir en tête aussi. C'est une conception bon, qui a évolué depuis une vingtaine d'années, mais je crois que maintenant, il faut aller plus loin dans ce sens-là. Justement, travailler sur l'histoire des femmes, ça peut permettre des avancées. Alors, il y a des femmes qui sont moins connues. J'ai parlé de celles qui sont très connues, mais... il y a une femme que moi, j'adore, parce qu'on est intervenu souvent ensemble dans des colloques, et en 2013 à Marseille, c'est Mélanie Berger-Vol, étrangère, d'origine autrichienne, qui passe à 16 ans en France parce qu'elle est anti-nazie, qui développe un travail, elle est révolutionnaire, qui développe un travail auprès des troupes occupantes, qui se fait attraper par Vichy, section spéciale, elle est en prison à Toulouse, elle est en prison aux Baumettes, et imaginez-vous qu'elle s'évade des Baumettes avec son groupe d'Autrichiens qui se déguisent en nazis pour la faire sortir. Et elle continue la résistance tout au long de la guerre. Là aussi, c'est une autre image hein, de la femme. Ils font tout un travail de propagande vraiment très très important, direct. Je dirais aussi un mot sur les femmes justement qui ont fait ce qu'on appelle du travail allemand. Il y en a une à Marseille que je voudrais citer, hein. C'est Irène Wozikowski-Helga, de son pseudo, d'origine allemande, et qui fait un travail auprès des troupes allemandes. C'est-à-dire, elle essaie de débaucher des marins ou des soldats allemands, elle leur fera passer des journaux en allemand. Ça marche un temps, puis en 1943, le marin avec lequel elle avait contact la dénonce. Donc elle est capturée près du zoo de Marseille. Elle va être envoyée à Fresnes, puis à Berlin, où elle sera exécutée. Donc voilà, voilà ça donne une autre dimension,
oui.
Plutôt que s'apitoyer, elles ont des tâches élémentaires. Pas du tout, pas du tout. Et d'autres, alors, je citerai aussi, par exemple, les sœurs Tourelle à Aubagne, deux jeunes communistes, 23-24 ans, elles diffusent des tracts, elles sont repérées, on les arrête, condamnées par section spéciale à de la prison, l'aînée Lucienne, qui a 24 ans, elle va être emprisonnée, puis livrée aux Allemands, elle va être déportée, elle meurt en déportation, pour diffusion de tracts. Je citerai un dernier cas, peut-être, parce qu'on pourrait continuer longtemps. Hein. Yvonne de Komornica, dont le mari était d'origine polonaise, qui elle est alsacienne, qui se retrouve à Avignon. Imaginez-vous qu'Avignon, elle va diriger tout le mouvement combat. Tout le mouvement combat. Aussi bien ses aspects de propagande, d'action, que sous aspect militaire. Une anecdote que je suis obligé de citer, c'est Jean Garcin qui vient se renseigner auprès du chef de combat, qui est envoyé par ses troupes pour un chef de combat, qui la rencontre, qui est sidéré lui-même, et quand il retourne rendre compte à ses troupes, alors comment est le chef, il dit, es uno fium, c'est une femme, les autres ne le croient pas, C'est pas possible, c'est pas vrai, tu nous racontes des blagues. Voilà un peu la conception quand même de la femme. À la fois sa valorisation et son rôle très important, mais à la fois le fait que ça a été rapidement évacué.
En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir justement de votre travail sur Bertie Albrecht, ce qui est intéressant, c'est justement de révéler ce rôle des femmes.
Absolument.
De montrer que, pour Bertie Albrecht, par exemple, ce qu'elle a constitué comme réseau pour venir en aide, par exemple, aux gens qui étaient en difficulté parce que le mari était dans la résistance, a été arrêté, etc., etc., c'était exceptionnel. Cette dernière que vous venez de citer, qui dirige un réseau, c'est exceptionnel. Et donc, c'est bien parce que ça permet justement de sortir de ce stéréotype de la femme au foyer, alors que non, il y a des femmes qui ont participé avec un rôle essentiel même.
En général, ce qu'on disait, c'est que le rôle était important parce qu'elles aidaient leur mari.
On est loin de tout ça, avec ces personnages exceptionnels et qui ont participé très très activement à la résistance. Pour elles, d'ailleurs, je voudrais terminer cette émission, puisque on est presque à la fin là, terminer cette émission. Et la dernière musique que je mettrai, c'est la complainte du partisan. Je crois que elle mérite ça pour leur rendre hommage, pour rendre hommage à leur combat, surtout en conserver la mémoire, parce que ça, c'est important. Robert Mancherini, merci beaucoup
pour
toutes ces petits détails et ces choses qui racontent l'histoire de Bertie Albrecht. Alors, je voulais donc justement donner les références de votre livre.
Ah oui.
Alors, parce que quand même, c'est important, si vous vous intéressez, je pense qu'on a tout là pour être intéressé par cette personne, Bertie Albrecht. Alors donc, Bertie Albrecht, de Marseille au Mont-Valérien, une féministe dans la résistance. C'est donc écrit par Robert Mancherini, avec la participation d'Anne Blanchet, aux éditions Gossen. C'est ça, c'est bon, j'ai tout dit.
Oui. Simplement, je voudrais ajouter,
oui.
Le 8 mars, je donnerai une conférence au Mémorial des Mille, justement sur Bertie Albrecht.
Ah, ben c'est très bien.
Dans le cadre de la Journée de la Femme.
Mesdames, mesdemoiselles, vous êtes invitées, bien évidemment. Au revoir et à la prochaine.
L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. Effacez mon passage. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. Et j'ai la France entière. Hier encore nous étions 3, il ne reste plus que moi, et je tourne en rond. Dans la prison des frontières. Un vieil homme dans un grenier pour la nuit nous a cachés, l'ennemi il a su. Il est mort sans surprise. Le vent souffle sur les tombes, la liberté reviendra, on nous oubliera, nous rendra.